RCF. Et chaque matin, c'est le point de vue du jour à 7h06. Ce matin avec vous, Joseph Touvenel, vous arrivez tout juste. Bonjour Joseph.
Oui, bonjour. Panne de signalisation sur le RER. Ceux qui seront en retard au travail, vous avez l'excuse.
Et ce matin, Joseph, vous nous parlez d'un homme né le 17 février 1829.
Et oui, donc il y a quasiment 155 ans, naissait une bien triste figure du patronat français. Un homme pour qui l'entreprise était d'abord une communauté humaine, avant d'être une machine à profit maximum. Aussi est-il de mon devoir de mettre en garde les auditeurs contre les agissements de cet industriel dévoyé.
Oula, de qui allez-vous nous parler ce matin?
Absolument. Né dans les Ardennes, fils et petit-fils de manufacturiers du textile, Léon Armel prit la tête de l'entreprise familiale à l'âge de 25 ans. Son père, Jacques-Joseph Armel, malheureusement imprégné des conceptions morales et philanthropiques du catholicisme, avait déjà perverti l'esprit ultralibéral qui sied à tout bon capitaliste. En instaurant des dispositifs novateurs pour ses salariés, comme des prêts sans intérêt ou une société de secours mutuel, il ira même dans son testament, ô horreur, jusqu'à prôner la redistribution des bénéfices.
Il était avant-gardiste.
Oui, ou très dangereux pour notre société. Intoxiqué par ce mauvais exemple paternel, Léon crée des écoles pour garçons et pour filles, des assurances pour les ouvriers. Mais surtout, il entreprend de faire de son usine une communauté de travail où les salariés dirigent eux-mêmes les œuvres sociales et, seconde horreur, fait participer les travailleurs à la direction de l'entreprise. Ce sont les conseils d'usine. Le conseil est composé d'ouvriers élus qui se réunissent avec leurs dirigeants tous les 15 jours. Ils sont appelés à donner leur avis pour toute modification de salaire, pour les questions de sécurité, d'hygiène, d'apprentissage. Ils étudient les réformes qui pourraient faciliter le travail et le rendre plus efficace. Les ouvrières ont leur conseil spécial qui a exactement les mêmes attributions. De quelle façon Léon Armel justifie-t-il de telles abominations en plein 19e siècle? Lisons ses déclarations délirantes. Comment un ouvrier peut-il s'intéresser à son travail si le patron le laisse ignorant de toute la marche de l'usine, s'il ne l'intègre pas, pour ainsi dire, dans tous les rouages, ne lui laisse pas l'initiative nécessaire au développement de sa personnalité? Toutes ses bontés, en dehors de cela, passeront à côté. Ce sera la générosité du riche vis-à-vis du pauvre. Ce ne sera plus la compréhension fraternelle, l'amour véritable. Passant du délire aux actes, Léon décide de bâtir un cadre harmonieux pour les employés de l'usine. Des logements sont construits au milieu d'un parc, loin de l'habitat ouvrier souvent insalubre à cette époque. Des équipements sociaux, culturels et syndicaux sont édifiés. La maison des syndicats est dotée d'une salle de billard, d'une bibliothèque, d'une buvette, le tout non loin de la chapelle du domaine. Le pire, c'est que ce dangereux idéaliste dépose avec ses salariés de nombreux brevets concernant de nouvelles méthodes de production. La filature se dote d'une teinturerie, une filiale est créée en Catalogne. À la veille de la Première Guerre mondiale, l'entreprise travaille à 50% pour le marché français, à 50% pour l'exportation. C'est la guerre de 14-18 qui remit les choses en ordre par la destruction de l'usine du Val-des-Bois, l'épicentre de ces scandaleuses pratiques. Au vu d'un bilan si négatif, il est bien normal que l'œuvre de Léon Armel soit si peu célébrée.